I'm the doctor.
Alors fais gaffe, Toubib. J'ai piégé mes métastases. Le premier qui touche à mon cancer, j'y saute à la gueule.
On vous encule à l'hôpital. D'abord on vous drogue et ensuite on vous encule.
On pourrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez que la taille des bâtiments.
Autriche, 1885. Un médecin chirurgien du nom de R. von Fleischer, alors qu'il exerçait sa pratique, s'entailla fortement le pouce. Alors que sa blessure lui faisait souffrir le martyr, il commença à prendre du laudanum en forte dose, ce qu'on appelle aussi de la teinture d'opium. Au bout d'un certain temps, et pour diverses raisons, il devint dépendant, et un jour, un de ses collègues le prit à part et à partie pour essayer d'empêcher ça, bien que ce soit déjà trop tard. Et il lui dit « Arrête la teinture d'opium, c'est dangereux et tu risques de devenir accro. Essaye ce nouvel analgésique dont je t'ai parlé, c'est sans danger, il n'y a aucun risque d'accoutumance. » Ce nouvel analgésique en question, c'était l'acte de la cocaïne. Et on connaît tous ce collègue sous le nom de Sigmund Freud. Freud. Et oui, le père de la psychanalyse était l'homme qui a convaincu le monde occidental que l'on voulait coucher avec notre mère tout en tuant notre père, fut l'un des premiers dealers de coke d'Europe. En fait, ce cher Sigmund a tenté pendant plusieurs années de se faire un nom dans la communauté scientifique en étudiant la cocaïne, dont il était d'ailleurs un consommateur fidèle. Il en prescrivait à tout son entourage, qu'il soit malade ou non, en le préconisant comme tonique, antidépressif, anesthésique pour les opérations chirurgicales. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans le bloc avec le chirurgien qui en prend autant qu'il en donne aux patients.
Yes!
Freud était persuadé qu'il n'y avait pas de dose mortelle pour l'homme et qu'on pouvait en prendre beaucoup sans aucun risque. Il fut vite rattrapé par la réalité quand l'un de ses patients mourut d'une overdose suite à l'une de ses prescriptions et lorsque de nombreuses études commencèrent à rapporter des cas de décès et de dépendance un peu partout en Allemagne. C'est ça assez rapidement d'en étudier les effets et s'expatrier en France pour devenir l'homme que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, au même moment, en 1886, de l'autre côté de l'Atlantique, un autre homme commençait à commercialiser une boisson toujours célèbre aujourd'hui, le Coca-Cola,
oui.
Qui jusqu'en 1903 contenait dans un verre 10 mg de cocaïne, soit un rail de coke tous les trois verres.
Mmh.
On savait vivre à cette époque.
Qu'est-ce qu'on se marrait.
Ouais. Remontons 50 ans en arrière encore. Et
c'est pour ça qu'on appelle ça les années folles.
Bah oui, il en fallait. Remontons 50 ans encore en arrière et parlons de Friedrich Wilhelm Adam Sutterner. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais rassurez-vous, il ne vous connaît pas non plus. Alors laissez-moi introduire le personnage. Friedrich Wilhelm Adam Sutterner était un pharmacien allemand qui, en se basant sur les travaux d'un de ses collègues, bon certains diront en le plagiant complètement, fut l'un des premiers à isoler un alcaloïde à partir du pavot d'opium. Il nomma cette substance morphium, puis morphine, en l'honneur de Morphée, le dieu des songes. Pourquoi ? Eh bien parce que ce monsieur, pour tester sa substance, eut l'excellente idée d'en injecter une seringue pleine à son chien et à son chat. Ils s'endormirent paisiblement et, étonnamment, ne se réveillèrent pas. Comme deuxième expérience, notre courageux scientifique prépara un breuvage pour lui et trois de ses amis, oui, entre potes, c'est plus marrant, il paraît, contenant à peu près 32 mg de morphine. Bon, ils en reprirent une seconde fois une demi-heure plus tard, puis après une troisième fois. Pour ceux qui auraient déjà pris des médicaments contenant notamment de la codéine, dérivé de la morphine, on peut considérer qu'ils ont pris en l'espace d'une heure l'équivalent de 30 fois la dose que contiendrait un comprimé lambda.
Bien.
Vous voyez où je veux en venir ?
Non.
Ça fait beaucoup.
Ouais, voilà. Bon, ils ne sont pas morts, mais se sont sérieusement intoxiqués et ont mis plusieurs jours à s'en remettre, subissant nausées, vomissements, fièvre, palpitations, difficultés respiratoires, constipation et j'en passe. Bon, malgré ses expériences, pour le moins foutraques, cet homme a réussi quand même l'exploit d'isoler la morphine il y a 200 ans. Une molécule qui reste encore aujourd'hui la référence dans la gestion de la douleur, allant de la simple migraine aux soins palliatifs en fin de vie. On n'a jamais trouvé mieux, pour le coup. Bon, les sciences médicales et techniques regorgent de chercheurs obstinés qui ont testé eux-mêmes leurs théories, protocoles ou même produits pour prouver au reste du monde qu'ils avaient raison et qu'il y en a d'abord. Certains l'ont même parfois fait par inadvertance, et ça me donne une super raison pour enchaîner et finir avec l'un des hommes les plus farfelus, grandioses ou fantasmagoriques, rayez la mention, inutile, que je connaisse, un petit Suisse du nom de Albert Hoffmann. Albert Hoffmann est né en 1906 et mort en 2008 à l'âge de 102 ans. Il a été plutôt connu pour avoir découvert ce qu'on appelle le LSD. Et en fait, il l'a synthétisé une première fois en 1938, et n'y voyant aucun intérêt thérapeutique, il décide de laisser une molécule de côté, de laisser la molécule de côté. Cinq ans plus tard, il resynthétise le BINS pour le réétudier sans grande conviction. Lors de ses expérimentations, en fait, il s'en administre sans s'en rendre compte, en se frottant les yeux. Ouais, ne jamais se frotter les yeux quand on a les mains gluantes, hein, c'est dangereux, les gars. Bon, nausée, pris de vertige, fortement agité, et pendant les 2 heures qui suivent, il aura enfermé aux yeux des visions qu'il a décrites comme étant intenses, kaléidoscopiques et colorées. Mmh. Pris de malaise, il décide d'interrompre son travail et de rentrer à vélo chez lui. À vélo, oui. Quelques jours plus tard, le 16 avril 1943, il décide d'enquêter sur la cause de cet état, et après une rapide réflexion, il considère le LSD comme étant le coupable et décide de s'en administrer à nouveau pour avoir la preuve. Assisté de son assistante, il avale ce qu'il considère comme étant la dose la plus faible possible, alors qu'en fait celle-ci aurait pu faire planer un cheval. Et une demi-heure plus tard, l'effet se fait sentir. Étourdissement, angoisse, trouble visuel, rire. Il doit lutter pour pouvoir parler et décide finalement de rentrer chez lui en vélo. Pour lui, le trajet est devenu un peu particulier. Il avait l'impression de faire du surplace, tout ce qu'il voyait était déformé, prenant des proportions absurdes, la route vacillait, lui semblait à peine palpable. En fait, selon son assistante, il pédalait en zigzag à une allure folle, si bien qu'il n'arrivait même pas à le suivre. Étonnamment, les adeptes du LSD ont décidé de baptiser cette journée le jour du vélo. En fait, c'est l'un des points qui me fait apprécier ce personnage, qui le rend plutôt cocasse. À l'époque, ce type, Albert Hoffman, c'est un chimiste, il est intelligent. Et rien dans ses biographies ne laisse penser qu'il a été un grand consommateur de drogue avant cette découverte. Et donc, le type, alors qu'il est pas bien, il a des alus, et que son cerveau redistribue les signaux nerveux à la manière d'un croupier ivre qui organiserait un poker à une table de blackjack, il décide tout simplement de rentrer en vélo. Normal. Après ça, qu'on ne vienne pas me dire que les Suisses sont des gens rationnels.
Non.
Arrivé chez lui, donc, il s'écroule dans son canapé. Son environnement prend alors des formes angoissantes et souvent menaçantes. Sa voisine ressemble à une sorcière maléfique. Il pense même être possédé, voire par un démon, voire même mort. Voire être mort. Consigna plus tout cela de manière très protocolaire. Il consignait ensuite tout cela de manière très protocolaire. Tous les objets dans la pièce se sont mis à tourner autour de moi. Les meubles adoptaient des formes grotesques et effrayantes. Ils étaient agités d'un mouvement perpétuel comme empli d'une angoisse. Assez particulier quand même. Mmh. Après plusieurs heures, la quantité présente dans son sang de LSD commença à diminuer et les sensations commençaient à devenir plus euphoriques et plus jouissives. Chaque son devenait une hallucination à la manière de kaléidoscope aux formes fantasmagoriques et bariolées. Oui, le type commençait à voir des sons.
Eh oui.
En fait, le LSD, ça vient de ce qu'on appelle de l'ergot de seigle. C'est un champignon parasite de céréales. Et on a souvent entendu parler de l'ergot de seigle dans l'histoire, avec l'ergotisme notamment, et aussi pour tout ce qui est l'histoire des sorcières de Salem et pas mal de bûchers en Europe à l'époque de l'Inquisition. On n'était pas franchement diplomate avec les types qui tapaient des grands tripes hallucinatoires à l'époque. Pour finir, il faut savoir que la dernière fois qu'Hoffman a pris du LSD, il avait 97 ans. Mais il a toujours tenu un discours tout au long de sa vie très précautionneux sur le LSD, disant bien que ce n'était pas un produit sans danger, qui ne devait pas être utilisé à des fins récréatives, mais devait être légalisé dans le cadre de la recherche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, sortez couverts et n'oubliez pas, la drogue, c'est de la merde.